C'est ça la classe.
Et oui, c'est ça la classe. C'est numéro 13 déjà. Vous êtes bien sûr RDIWA 107.5 FM. Et nous sommes, comme toutes les quinzaines, en direct avec notre Dream Team de lycéens, de seconde, de première et de terminale. Et nous allons débattre de l'actualité comme d'habitude. Nous avions lancé il y a une quinzaine de jours sur cette même antenne une invitation, vous le savez, aux différents candidats à la mairie de Die. Eh bien, les trois candidats ont accepté de venir rencontrer les lycéens. Aujourd'hui, on va commencer par une rencontre et un débat, une confrontation sans concession entre Monsieur Lauenberg. Bonjour, Monsieur Lauenberg.
Bonjour.
On ne s'entend plus.
Si, c'est bon, normalement. Allez-y.
Moi, je ne m'entends plus, mais bon, je veux bien continuer à parler.
Le micro, je ne sais pas si on nous entend en direct.
C'est quelqu'un qui a appuyé sur. C'est la prise.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on nous entend, Joris, ou pas ?
Oui, c'est juste la prise qui
dans la deuxième partie de l'émission, pardon, chers auditeurs. Nous débattrons donc avec M. Lauenberg, qui est candidat à la mairie de Die et qui est conseiller général du DIOA, notamment chargé de la filière bois. Et les lycéennes et lycéens ont des questions à lui poser. Et ce sera donc dans 10 minutes, très exactement, à midi 20, de midi 20 à 13h, donc débat ouvert avec M. Lauenberg. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est important de discuter avec tout le monde, avec les jeunes, et de passer à la radio.
Futurs citoyens, effectivement, donc tout à fait concernés, intéressés, vous allez le voir, par la politique et qui ont des questions sur la chose publique. Juste avant ça, pendant une première dizaine de minutes, comme d'habitude, on ne va pas changer nos habitudes, on va parler de l'actualité et on va évidemment, on ne pouvait faire difficilement autrement, parler de cette frontière entre vie privée et vie publique du chef de l'État, des politiques peut-être en général. Alors on va essayer d'élever un peu le débat, on essaye de faire ça chaque quinzaine. Et de partir un peu de ces trois tabous jusque-là autour du chef de l'État en particulier. On peut dire qu'il y en avait trois. L'argent, depuis les déclarations de patrimoine, il a été un peu levé. Il y avait évidemment aussi le tabou de la santé pendant très longtemps, qui est aussi en train de se lever petit à petit. Et puis donc le dernier qui vient de tomber, semble-t-il, avec ce qu'on appelle l'affaire Gaillé-Hollande désormais, qui fait la une de tous les journaux à sensation et pas que. Et donc celui de la vie privée, de la vie intime. Alors d'après vous, chères lycéennes, chers lycéens, quelle frontière doit-il y avoir entre la vie privée et la vie publique ? Est-ce que la vie privée du président de la République, d'une certaine manière, appartient à tout le monde ? On pourra aussi parler du statut de l'épouse, de l'époux, selon les cas, ou de la compagne ou du compagnon du chef de l'État. Que pensez-vous du sujet ? Comme une humoriste, Anne Romanoff, l'a dit, je crois, chez Michel Drucker dimanche dernier, la vie privée du chef de l'État ne nous regarde pas, mais intéresse tout le monde. Oui ? Jimmy ?
Je pense que c'est pas une raison, même si c'est le président et que c'est soi-disant notre, enfin si c'est notre chef à tous. Et je pense que c'est quand même pas une raison et qu'il a quand même le droit d'avoir sa vie privée à lui et faire des choses qu'il a envie de faire sans qu'on ait, sans qu'on le sache forcément.
D'accord. Donc tu penses que le journal en question a eu tort, magazine.
Oui.
À sensation a eu tort de sortir cette information qui en est pas une pour toi.
Ben, je trouve que, enfin, il fait ce qu'il veut, quoi. Après, s'il a envie de faire ça, ben, il le fait. Je vois pas pourquoi on devrait s'en mêler et que tout le monde devrait être là, mais c'est scandaleux, machin, tout.
D'accord. Joris ?
Ouais, mais est-ce que ça serait pas un inconvénient de vouloir avoir une certaine popularité, être connu, avoir un pouvoir, ou voilà ?
Non, mais après, il y a des choses qu'on peut savoir, mais après, la vie privée, il a parlé à sa mère sur Facebook, ça, on s'en fiche. Voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait savoir toute sa vie privée, absolument tout ce qui... Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qui. Je trouve que non, je trouve pas ça normal.
Anne-Sophie ?
Toute la vie privée, je suis d'accord que non, il y a des choses qui nous regardent absolument pas. Par contre, par rapport au statut de l'épouse et de sa compagne, c'est quand même beaucoup d'argent chaque mois qui sont dépensés pour elle. Et c'est de l'argent qui vient de nos impôts. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, ça nous regarde beaucoup. C'est près de 20 000 euros par mois. Donc ça nous concerne quand même.
Oui, non, mais
c'est un argument qu'on a entendu. Ça. Alors d'autres ont répondu, hein, pour essayer d'équilibrer la balance, que de toute manière, c'est des frais qui seraient dépensés si ça n'est pas la compagne du chef de l'État par un secrétariat. Ça a été le contre-argument qui a été donné. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, le statut de Mme Treveller est, on va dire, en stand-by, pour parler en français. D'autres avis sur la question, tandis que M. Lauenberg est attentif et probablement donnera son avis sur la question tout à l'heure, s'il le souhaite. Oui.
C'est vrai que quand on choisit d'être président, il y a
Il faut quand même qu'il ait une vie à côté. Il ne faut pas qu'il soit surveillé tout le temps. Et donc, sa vie privée, il y a une partie de sa vie privée qui ne nous regarde pas. Bien sûr, c'est vrai qu'avec sa femme, ça fait pas mal une polémique, avec l'argent qu'il versait. Mais c'est vrai que je ne pense pas que les magazines avaient besoin d'afficher ça, parce qu'on a fait exactement pareil avec M. Sarkozy c'est comme ça qu'on détruit un peu la politique. C'est pas vraiment dans le monde de la politique. Là,
ça écorne l'image des politiques une fois plus après toi.
Ouais.
Alors des politiques ou des journalistes, entre guillemets, certains hésitent même à employer ce mot-là pour ce type de magazine, mais qui révèlent ce genre d'informations, si tant est que ce soit une. C'est la faute des politiques ou c'est la faute des journalistes ou des deux?
C'est la faute des journalistes, mais c'est la faute un peu de. Des politiques aussi, c'est compliqué, je sais pas comment...
Oui, ça c'est sûr que c'est compliqué. Magda ?
Oui, et puis en plus je pense que quand les journalistes ont publié ça, ils n'ont pas pensé que pour son épouse, enfin pour la première dame de France, ça pouvait être...
un peu humiliant.
Ouais, humiliant, voilà. Ça, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça.
Ulysse ?
Pour moi, je pense sincèrement que la vie privée du président ne nous regarde pas. Et donc
mais intéresse tout le monde.
Alors,
vente de closer multipliée par 3 ou 4.
Voilà, bon, moi je trouve ça.
C'est beaucoup d'hypocrisie, si je peux me permettre.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord, et moi y compris. Mais je regrette totalement, je trouve que ces magazines People. Et il faut savoir que ce genre de magazine People est aidé par l'État à hauteur de plusieurs millions d'euros au titre d'aide à la presse. Moi je trouve ça proprement scandaleux. Et par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est pas mon cas, mais ce qui pourrait nous intéresser, c'est que le photographe. Quand il a pris ses photos, il aurait pu avoir, au lieu d'avoir un téléobjectif, il aurait pu avoir un fusil. Et ça pose la question de la sécurité du président. Et la sécurité du président, elle concerne finalement tout le monde, parce qu'un président assassiné, c'est très très dommageable pour l'image de la France et pour les institutions.
C'est pas pareil, Ulysse.
Oui,
je pense que le journaliste, le photographe que tu parles qui a pris les photos, il y a une sécurité, mais il contrôle qui passe. Ils n'ont pas contrôlé.
Apparemment, l'information, il l'a eu, à mon avis, je ne sais pas de quelle source, mais je ne pense pas qu'il y ait autant de paparazzi qui planquent exactement à cet endroit-là. Je pense que certains lui ont soufflé à l'oreille. Ça se savait quand même dans le microcosme politique.
Tout le monde le savait.
Plusieurs mois.
Depuis juin, janvier 2013, ça fait depuis minimum janvier 2013 que ce photographe, il y avait quelqu'un qui. Le Monde l'avait interviewé, ce photographe-là, il disait, en janvier 2013, c'est-à-dire il y a un an, il disait. Si quelqu'un arrive à faire des photos, ce sera un scoop énorme. Qui voudra le publier? C'était la question. Ben, les magazines People. C'est
qui
bien.
Osera, puisque jusque-là, c'était tabou, justement. Ça restait le dernier tabou sur
il y avait eu,
zone publique.
Il me semble que c'est l'Express qui avait révélé sur un petit article sur son site internet la liaison Hollande-Gaillet. Et je ne sais plus si c'était le président de la République ou l'actrice Julie Gaillet qui avait porté plainte, je crois. Pour diffamation, quelque chose comme ça.
Mais c'était plus sous forme de sous-entendu.
Et on l'avait peu entendu, mais en fait, comme vous avez dit, le microcosme du pouvoir des journalistes, etc., le savait. Par contre, est-ce que tout le monde le savait, sauf Mme Treveller? Ça, je ne sais pas. On peut se poser cette question.
Ça, c'est du mauvais esprit. Alors, de façon plus large, allons au-delà du chef de l'État, de plus en plus de gens sur le net exposent leur vie privée, et notamment les jeunes. Vous êtes un peu concernés, vous allez nous dire si oui ou non. Avec des photos parfois un peu compromettantes, dans des situations un peu élogieuses, voire dénudées. Et quelles sont les limites d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut montrer sur la toile, en sachant que ce qui est balancé à un moment donné est définitivement balancé sur le net et récupérable d'une manière ou d'une autre, même si vous enlevez ces photos ou ces propos peut-être un peu limites parfois et pouvant éventuellement vous mettre en danger. Est-ce que j'y vais trop fort ou... Qu'est-ce que tu en penses, Adrien?
De toute façon, les réseaux sociaux, c'est très très dangereux en soi, parce que même si on croit avoir supprimé certaines photos, elles sont tout de même conservées dans les gros disques durs de l'entreprise Facebook.
Et c'est vrai. Enfin,
on va prendre l'exemple du réseau social Facebook. Et puis même, j'avais même entendu que des employeurs qui veulent employer certaines personnes dans leurs entreprises vont jusqu'à farfouiller vraiment dans les recoins du net pour voir si... telle personne qui a postulé pour un emploi fait trop la fête ou a plein de problèmes différents, et ça peut être assez gênant, quoi, si après on veut percer dans une carrière. Enfin, il faut faire très attention, je pense.
Moi, j'avais déjà vu le témoignage d'un homme qui habitait aux États-Unis et qui avait envoyé qui avait envoyé une lettre au directeur de Facebook et qui lui avait dit « Eh bien écoutez, remettez-moi sur un CD-ROM toutes les informations que vous avez sur moi. » Et là, il a pu lui remettre tout ce qui avait été publié sur Facebook, toutes les informations, même les messages qu'il avait supprimés.
L'heure de connexion qu'il se connecte sur Facebook, il y a l'heure là.
Je ne sais plus la taille que ça faisait, les fichiers compilés, mais c'était vraiment un truc hallucinant. Et donc, c'est pour dire à quel point Facebook conserve, enfin, en tout cas, un des principaux réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook, conserve toutes nos informations, même quand on pense les avoir supprimées. Donc, c'est ça qui est vraiment incroyable et inquiétant. Ouais, ça, c'est
bon, je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là parce qu'il y a de quoi dire. Et puis, on va suivre les épisodes qui vont se succéder, j'imagine, à propos de notre président de la République. Il est midi 20, comme promis, peut-être après un petit jingle de Joris. Nous allons retrouver M. Lowenberg, notre premier invité politique dans CCC numéro 13. C'est ça la classe, spéciale élection municipale. Nous collons à l'actu comme depuis le mois de mai dernier déjà. Et nous avons le grand plaisir de recevoir le premier des trois candidats déclarés à la mairie de Die, M. Lowenberg. Bonjour, rebonjour.
Rebonjour, je vous remercie.
Vous avez écouté un petit peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus ou...
Bah, une toute petite réaction. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas mélanger vie publique. Un homme d'État, c'est un homme public. Et vie privée, la vie privée, ce n'est pas de la politique. Et quand on est élu... On s'occupe de politique, de gestion de la cité, d'intérêt général et pas des intérêts particuliers des uns ou des autres. Moi, je dirais que sur cette affaire, quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est le projet de loi d'orientation de l'avenir de l'agriculture et de la forêt, la réforme des collectivités territoriales. On parle de fusionner des régions, des départements, des communes. On parle de changements fondamentaux. Et c'est vrai que bon, la vie privée de François Hollande, à côté, c'est...
Parasite un peu tout ça, justement.
Voilà, c'est dommage.
D'accord. Alors, les lycéens se sont renseignés sur les compétences d'un maire. Et ils ont beaucoup de sujets qui les intéressent. L'éducation, le social, la sécurité. Par exemple, est-ce que les caméras de surveillance, a dit, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour vous. D'autres l'ont évoqué, en tout cas. Évidemment la jeunesse, le sport, la culture, les infrastructures sportives a dit, je crois qu'il y a des questions sur le gymnase, et puis un vieux serpent de mer, je ne parle pas de la déviation, encore qu'on pourra en parler, mais un autre, les fameux bancs, peut-être insuffisants, devant le lycée et devant le monument aux morts, qui parfois est utilisé comme siège et comme banc justement, et on peut le comprendre, ça froisse, et même plus que cela, des gens qui sont concernés par l'histoire, peut-être parfois un peu plus que le lycée, on verra ce qu'ils en pensent, que je pense qu'ils sont concernés quand même. Le logement, l'emploi, les écoles, les crèches, enfin voilà autant de sujets sur lesquels ils veulent vous interroger. Qui est-ce qui veut poser la première question, Ulysse ?
Alors justement, d'abord tous ces petits sujets. Donc vous connaissez, je pourrais poser une question plus nationale mais assez rapidement, vous connaissez donc les divergences actuelles au niveau national politique. Peut-on correctement se présenter sous ces deux bannières du Parti Socialiste et du Parti Communiste en même temps, sans être en contradiction avec l'une et avec l'autre, même au niveau municipal ?
Commençons par du lourd, Ulysse.
Il commence pas facile. Il faut dire, il y a la politique nationale et la politique communale. Pourquoi on est parti ensemble, parce qu'on a perdu les élections la dernière fois et qu'on était parti chacun de notre côté. Ensuite, on a été quand même élus dans l'opposition. On a travaillé 6 ans ensemble. Et on a plutôt bien travaillé. Donc, on connaît les sujets d'Iwa, on suit les dossiers et on sait qu'on a en commun des valeurs communes, la solidarité, la laïcité, des choses comme ça. On s'occupe d'abord du projet municipal. Et c'est vrai qu'on est toujours, au niveau national, dans une confrontation, mais c'est un débat républicain. C'est pas un débat où on manque de respect l'un envers l'autre. On est, voilà, évidemment, chacun essaie de tirer sa position au niveau national. Au niveau local, on s'occupe du projet communal. Quand même, dans la relation qu'une mairie a avec un gouvernement, je pense que le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche... Toute commune, et je pense que tout le monde l'a fait, plus ou moins, avec plus ou moins d'entrain, défend les intérêts communaux, quel que soit le gouvernement en face. C'est-à-dire que même si on a un gouvernement qui est la même étiquette politique que le nôtre, s'il décidait, donner un exemple classique, de fermer la maternité, je pense que n'importe quelle maire s'y opposerait et rassemblerait la population au-delà de toutes les étiquettes politiques.
Donc pour vous, il y a assez peu de divergences au niveau droite-gauche, au niveau local ?
Ah si, il y a des divergences par contre. Tout à l'heure, vous avez parlé des caméras de vidéosurveillance, par exemple, par rapport à la jeunesse ou à ces questions de sécurité. Je pense qu'il y a des divergences.
Vous, les caméras de vidéosurveillance, puisqu'on en parle, c'est votre tasse de thé ?
Alors, pas du tout, non. Pas du tout. Je pense qu'une caméra de vidéosurveillance, ça coûte 15 000 euros d'entretien par an. Ça se place à des endroits, ça ne surveille pas toute la ville. Et puis, on le voit dans les grandes villes où il y a des milliers de caméras de vidéosurveillance, ça n'empêche pas du tout la délinquance. Sur dit, il existait un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est une instance qui rassemble autour de la table des éducateurs de prévention, la police municipale, des élus, des assistantes sociales, la gendarmerie. Tout ce monde se met autour de la table et régulièrement fait le point où on en est. Est-ce qu'il y a des gens qui font la zone d'un côté ? Qu'est-ce qui se passe dans la ville ? Et on essaye de faire de la prévention plutôt que de la répression.
Certains c'est beaucoup vous dire moins cher. Quand même que parfois, effectivement, la prévention c'est bien, mais qu'une fois que les larcins ont été commis, parfois on retrouve des gens, je crois que c'est arrivé deux à trois fois à Valence il y a quelques jours de cela, et à Die, il me semble, du côté d'un des deux magasins, il y a quelques mois, il me semble qu'on a retrouvé ceux qui avaient mis le feu, si je dis pas de bêtises, grâce aux caméras. Je ne veux pas faire l'avocat.
Ça peut arriver.
Du diable, si tant est que ce soit un diable, oui, celui oui. qui est pour les caméras, non, mais... pas forcément. Il y a de plus en plus de municipalité de droite comme de gauche
oui.
qui s'y mettent. C'est plus tellement un problème. Si.
Disons que ça a permis peut-être d'aller plus vite parce qu'il y avait cette caméra qui était là et qui était mal orientée d'ailleurs, qui n'aurait pas dû tourner dans cette direction en plus. Mais je pense que sur un événement comme ça, il y avait. Bon, ça a fait beaucoup de bruit. Il y avait aussi beaucoup de témoins. Et on n'aurait peut-être pas mis une journée, on aurait peut-être mis trois jours à les trouver, quoi.
D'accord.
Voilà. Mais en tout cas, la caméra n'a pas empêché que l'acte
oui,
se fasse.
Voilà, bien sûr. Juste pour essayer, après je redonne la parole au lycéen de suite, mais sur le purement politique, on va dire, et les alliances, j'ai cru lire sur le site qui présente votre projet que vous appeliez à une alliance avec ELV, c'est ça, et M. Jouve ?
Oui,
j'ai bien lu.
J'avais déjà fait un appel il y a plus d'un an, en octobre 2012. Je n'avais pas eu de retour, donc je refais un appel... Notamment parce qu'on me demande souvent pourquoi on ne part pas ensemble. Et voilà, je préfère que les choses soient posées publiquement, que tout le monde soit bien au clair. Pour...
On se permettra de lui poser la question le 12 février.
Tout à fait.
Lors de sa venue. D'autres questions ? Oui, Jimmy ?
Oui, donc c'est ben, par rapport au banc, donc devant le lycée, vous pensez cela possible ou pas ?
Alors, sur la place Saint-Pierre, on a mis les bancs, oui. Mais moi, je voudrais prendre le projet de la place Saint-Pierre un peu plus largement parce que pour nous, on l'a mis dans un des projets structurants. C'est un endroit stratégique sur dit puisque c'est l'entrée et la sortie de la cité mixte collège-lycée. Donc, ça fait plus de 600 personnes qui rentrent et qui sortent tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour même. C'est l'arrivée des bus. C'est un lieu de passage pour aller sur les commerces, les supermarchés, arriver du centre-ville. C'est la première place quand on arrive à Die. C'est aussi le lieu de commémoration des différentes guerres. Donc pour moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts différents et contradictoires qu'on peut mettre autour de la table. Donc nous, notre projet, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table en créant une commission extra-municipale. Donc ce n'est pas une invention extraordinaire, c'est dans le Code général des collectivités territoriales. C'est quelque chose de légal qui existe. Et l'idée, c'est de prendre trois collégiens, trois lycéens, trois représentants, je dis des chiffres un peu comme ça, mais de l'établissement, des transporteurs, des associations patriotiques, et qu'on se mette autour de la table et qu'on discute de qu'est-ce qu'on peut faire de cette place ensemble. Parce que je vois bien que je vais à toutes les assemblées générales des associations patriotiques qui ne sont pas contents que les collégiens ou les lycéens s'assoient sur le monument aux morts. Je vois les lycéens qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir s'asseoir sur cette place. Et je me dis, on résoudra le problème. Et c'est là que c'est intéressant, je pense. C'est qu'il y a des intérêts contradictoires. On les met autour de la table. Et l'objet, ce n'est pas de défendre chacun ses intérêts, mais c'est de trouver un objet commun, c'est-à-dire le projet de la place. Qu'est-ce qu'on en fait sur lequel on puisse s'entendre ? Donc, est-ce qu'il faudra déplacer ce monument, pas le déplacer, mettre des bancs, mettre des... Voilà, quel aménagement on peut faire là-dessus, mais avec tout le monde.
Est-ce que les lycéens comprennent le fait que les anciens combattants soient choqués de...
Oui, enfin, c'est quand même un lieu important pour ces personnes. Il y a peut-être des gens qui ont vu leurs parents mourir à certaines guerres.
Et ça vous empêche quand même pas de vous asseoir dessus, vous en général, hein, je dis pas tout en particulier.
Non, mais enfin, le problème c'est qu'après, c'est une place où il y a beaucoup de gens qui restent, et on va pas s'asseoir par terre, surtout en hiver, encore en été. n'y a pas trop de boue, donc ça pourrait aller. Mais là, il y a de la boue partout. Si on s'assoit
pour vous, ce n'est pas un manque de respect de s'asseoir derrière les chaînes.
Indirectement, mais après, quand on ne peut pas s'asseoir nulle part, on ne va pas s'asseoir sur les chaînes non plus. Et donc après, c'est vrai que bon, s'il y a quelque chose, par exemple, quand il y avait les fleurs, il n'y a personne qui s'est assis dessus. C'est un cas extrême, mais on reste quand même dans quelque chose. Si on le fait déjà aussi, c'est derrière. Enfin, il y en a jamais qui se mettent devant ou sur les endroits où il y a les inscriptions. Après, c'est tout est relatif.
Ulysse.
Oui. Alors pour revenir, j'ai remarqué dans votre programme que vous citez plusieurs sujets auxquels vous voudriez faire des commissions extra-municipales, donc notamment pour le Square Saint-Pierre. Vous l'avez dit. Pourquoi vous y tenez tant?
Alors les commissions extra-municipales, moi j'y tiens parce que pour être clair, il y a un désaveu du politique, vous l'avez dit en début d'émission là. Je veux dire, une méfiance où on a l'impression que la politique, c'est je ne sais pas qui décide, comme si les hommes politiques n'étaient plus des humains, mais je ne sais pas quoi. Et on est quand même à un échelon municipal où on peut agir, où on peut mettre les gens autour de la table et remettre en action. Il y a déjà par rapport à cette défiance du politique, voir qu'on est des hommes comme tous les autres. Et puis moi, j'ai l'impression que le monde est compliqué. Beaucoup de choses sont compliquées. Quand on veut faire quelque chose, on veut changer le monde. Tout le monde veut changer le monde. Il y a des grands enjeux, le réchauffement climatique. Il faut changer les transports, il faut isoler les bâtiments et tout. Quand un citoyen veut se mettre en action, il se confronte vite à un mur parce que tout est compliqué. Et même en tant qu'élu au département, pour faire bouger des choses, c'est long. Il faut passer par un élu, par une commission, par un service, parler avec l'autre service, Et on a tendance à entendre des discours un peu simplistes sur « Ouais, mais les élus, ils font n'importe quoi. Pourquoi ils font pas ça ?» Donner un exemple, pourquoi on fait pas des pistes cyclables le long de la Drôme ? Bon, moi, ça fait 2 ans que j'essaye de poser la question au département, aux intercos, et c'est long, et ça va avancer. Il y a une programmation 2016-2020, etc. Et j'aimerais que les gens se remettent en action avec les élus, directement, sans médiateur, pour voir, quand on fait un projet, par exemple celui de la place Saint-Pierre, qu'est-ce que ça va impliquer ? Le travail des urbanistes, le travail de diagnostic, le travail d'arriver à discuter anciens combattants, collégiens, les transporteurs, les commerçants. Il y en a qui vont vouloir une place avec du pavé, d'autres du béton, d'autres des bancs, d'autres... Voilà, et je pense que c'est en remettant les gens dans l'action autour de projets qu'on redonnera un peu du goût à la politique.
Donc la politique, c'est aussi le moyen de préparer des choses concrètes et des projets concrets. Est-ce que vous, lycéen, vous comprenez qu'un monsieur de 41 ans, si je ne suis pas indiscret, qui se présente à la mairie de Die, la démarche même, puisqu'on entend beaucoup dire, effectivement, les politiques, ils sont tous pareils, et peut-être par des jeunes, je pense, pas vous, puisque vous êtes autour de la table, mais est-ce que vous pensez un jour vous engager de cette manière-là ou d'une autre ? Est-ce que vous comprenez que quelqu'un décide de briguer un mandat pareil, avec toute la responsabilité que ça peut représenter aussi, et tous les projets, on vient d'en évoquer quelques-uns, que ça représente également. Ça vous paraît lisible, incompréhensible de faire une telle démarche ? Et vous, est-ce que vous sentiriez l'énergie de vous lancer dans des élections un jour ? C'est peut-être un peu tôt, mais...
Bah, ma foi, c'est vrai que nous, on a la possibilité d'avoir quelques expériences un petit peu de représentants, même si c'est pas, bien sûr... en tant que municipal, je parle bien sûr d'être délégué ou même d'être représentant au conseil d'administration, au lycée ou au collège. Souvent, quand on se présente, et moi je parle en connaissance de cause, c'est d'abord parce qu'on a envie de représenter les autres, parce que c'est quelque chose qui nous donne des responsabilités et... c'est vraiment en fonction des personnes. Je pense que c'est pas tout le monde qui a envie de se sentir à ce poste-là.
Ça peut commencer au lycée, effectivement. Monsieur Lewenberg, vous étiez impliqué dans la vie de...
J'étais impliqué dans le collège.
Justement, on y vient. Une question auquel je pensais ce matin. À partir de quel âge, à partir de quel moment de votre vie, vous avez dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie d'avoir des responsabilités dans ma vie.
Alors, en politique, je me le suis jamais dit. Mais par contre, j'ai toujours eu envie de faire des choses qui, pour moi, ont du sens. Donc, mon premier métier, je dirais, c'est un métier politique, c'est animateur culturel. Donc, il y a toutes les valeurs de l'émancipation humaine, le partage de la culture, l'accès gratuit et libre pour tous et tout ça. Ce sont des valeurs que j'ai portées pendant ma première partie. Après, on est venu me chercher pour être sur une liste en 2002 au municipal. Moi, je ne voulais pas, parce que quand on est dans une association, on est autonome du politique, indépendant, et on a cette parole libre. Bon, ils m'ont fait craquer. Je vais vous dire qu'ils ont mis du temps. Hein. Je me suis mis en 26e position, donc non éligible. Et puis, au fil des démissions et désistements
en conseil... J'ai fait du chemin depuis.
J'ai fait du chemin. Je suis rentré au conseil municipal en 2005. Arrivé, donc j'ai pris le chantier en cours, on dirait. Mais arrivé en 2008, j'avais autour de moi que des personnes qui avaient plus de 60 ans, 65 ans, qui voyaient que j'écrivais bien, que je m'exprimais, même si je m'exprimais un peu comme je voulais, et qu'on dit, bah, écoute Philippe, maintenant, c'est toi qui seras le tête de liste. Alors moi, j'ai refusé pendant un moment. Et puis après, c'est vrai que ce n'est pas forcément nous qui choisissons. Enfin, moi, j'ai accepté, mais c'est une demande voilà, une demande autour. De la et qu'à un moment donné, on se dit, ben, on demande à ce que quelqu'un prenne ses responsabilités. J'y vais pas. Mais c'est un engagement par rapport à toutes ces personnes autour. Quoi.
À la 26e place, à la tête de liste, c'est clair qu'il y a un sacré parcours. Il y a un chemin. Anne-Sophie ?
Tout à l'heure, vous nous parliez de projets, par exemple, comme les pistes cyclables, etc. Et j'ai lu sur votre site que vous vouliez stopper la construction de parkings d'Andy pour peut-être désengorger un peu la ville de voitures et promouvoir d'autres modes de transport. Mais du coup, je me suis posé la question, pour des personnes qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, etc., et qui n'ont pas le temps de prendre le vélo ou d'être à pied, ou qui habitent un peu excentrés et pour qui aller faire ses courses, c'est forcément en voiture, vous pensez, enfin, vous voulez faire quoi concrètement ?
Alors, nous, on veut faire des pistes cyclables. On veut développer les déplacements doux, comme on les appelle, piétons, cyclables, pour les poussettes, pour les personnes âgées, les handicapés. Ça fait des espaces où ils peuvent se déplacer. Ça n'interdit pas aux gens de prendre leur voiture. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être dans une politique, comment dire, répressive vis-à-vis de ceux qui font des voitures, c'est d'être dans une politique de sensibilisation. Et puis, on appelle ça des démarches inclusives, c'est-à-dire qu'on met en place une structure qui permet d'avoir une alternative à la voiture. Si les gens l'utilisent, et je pense que les gens l'utiliseront, parce que c'est quand même ce qui se fait dans toutes les villes de France, et c'est dans l'air du temps, je dirais, faire du vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la nature, c'est bon pour tout le monde. Donc, mettre en place les structures pour que les gens l'utilisent. À 10, il y a une personne sur deux qui travaille à 10 qui habite à moins de 3 km. Donc si dans ces une personne sur deux, il y en a la moitié ou un dixième qui ne prend plus sa voiture, on désengorge déjà, on laisse de la place aux autres. Et l'idée, parce que par rapport au parking, plus on construit de parking, oui, plus ils sont pleins, plus il y a de voitures. À un moment donné, il faut faire un choix. Soit on continue à faire des parkings énormes et en prendre l'espace, soit on se dit stop, on trouve une autre alternative.
On désengorge, donc plus besoin de déviation. Quel sens de la transition ?
Plus besoin de déviation.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet qui, j'ai l'impression, est un petit peu mis au placard, enfin depuis 40 ou 50 ans, 60 ans même, peut-être ?
Ben, comme vous l'avez dit.
De vieux serpents de mer.
Moi, je pense qu'il y a eu 60 ans de débat sur ce projet. Il y a eu une première délibération il y a plus de 60 ans au conseil municipal de Die pour demander qu'il y ait un projet comme celui-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Il y a eu des débats de fond, il y a eu des articles, il y a eu des invectives d'un côté, de l'autre.
Des référendums.
Le projet ne s'est pas fait. Je pense que si ce n'est pas fait, c'est qu'il n'était pas bon, qu'il ne doit pas se faire. Aujourd'hui, ce n'est plus un axe départemental à enjeu fort. Il n'y a pas une circulation de camions plus forte qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Et puis, avec quand même, il faut parler du contexte budgétaire actuel, le département a diminué son budget des routes par deux. Donc on passe de 60 millions à 30 millions. On voit mal comment le président du département choisirait de mettre 25 millions sur 10 pour une déviation.
Puisqu'on parle d'argent, entre l'argent et les impôts, il n'y a qu'un pas, en termes de fiscalité locale, d'impôts locaux, je crois que quelqu'un voulait poser une question là-dessus. Anne-Sophie, peut-être ?
C'était par rapport à l'argent, justement, et à l'endettement de la ville de Die, parce qu'on s'est rendu compte que c'était la ville la plus endettée du Diois aujourd'hui. Donc,
il faut faire attention quand même aux proportions des villes, hein, parce que Die est la ville la plus grande.
La plus grande aussi. Mais il y a quand même. Donc, pourquoi, enfin, qu'en est-il aujourd'hui réellement et pourquoi est-ce que vous pensez qu'on en est arrivé là et qu'est-ce que vous proposez ?
Et est-ce que les impôts des Diois vont augmenter ? Voilà. C'est ça la vraie question, pardon.
Ça, c'est la question d'un électeur, c'est pas la question d'un jeune.
Oui, mais les Diois, par majorité, sont des électeurs. Je pense qu'ils sont intéressés par sa stabilité, hausse, baisse et puis par rapport à l'endettement dont semble parler Anne-Sophie, peut-être aussi.
Alors, sur l'endettement, moi, je vous invite à venir mercredi prochain au conseil municipal de Die, où aura lieu le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est un débat qui n'aboutit pas à un vote, mais où on définit un peu le cadre budgétaire, le contexte local, social, professionnel dans lequel on se situe. Et puis on discute des grandes orientations de la ville. Alors, c'est vrai que la ville s'est un peu endettée. Alors moi, j'ai un adjoint, un ami qui s'occupe plus particulièrement des finances, qui vous en parlerait mieux, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il est en formation sur les finances, justement. Il faut comparer les villes quand même de même strate, c'est-à-dire qu'il faut voir une ville qui est un bourg-centre, qui a le même nombre d'habitants, et voilà, parce que si on compare à Vachère ou Minglon ou d'autres, Vachère, je crois qu'ils ont zéro endettement, zéro euro, parce que tout ce qu'ils font, ils le font avec l'argent qu'ils ont. Voilà. Moi, sur cette question, quand même, ce que je me dis sur un mandat, on a peu d'argent, on sait que les dotations de l'État, elles vont diminuer, parce qu'une partie des recettes de la commune viennent des dotations de l'État, une autre des impôts locaux. Je me dis qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui des projets utiles. Moi, je pense qu'on est dans un moment de crise sociale et économique, qu'on a une vie associative très forte à dire, on a beaucoup d'entreprises toutes petites, et il faut qu'on fasse des projets pour les soutenir et qu'ils soient, qu'ils fassent des leviers. Donc, je pense que les pistes cyclables, par exemple, font un levier. Si on utilise son vélo plutôt que sa voiture, on gagne un peu d'argent. Si on fait une maison des associations, on fait vivre la vie associative, on fait vivre le centre-ville. Voilà, donc il y a des choix. On fera ces choix-là.
En tenant compte, voilà, j'avais le relancer, en tenant compte tous ces projets avec M. Leuenberg, les impôts risquent d'augmenter, de baisser, alors, d'être stables par rapport à ce que les DIOA payent en ce moment.
En fait, si on augmente les impôts d'un point, ça fait rentrer 22 000 euros sur le budget communal. Donc ça représente quasiment rien. Et ça représente quasiment rien aussi pour chacun des citoyens. Donc on agite toujours un peu le drapeau rouge quand on parle d'impôts. Moi, je crois que si on explique aux gens pourquoi on augmente les impôts, je ne dis pas que je les augmenterai, hein, mais si on dit on va augmenter d'un point parce qu'on a besoin de 20 000 euros pour soutenir telle ou telle association ou telle action ou tel groupe. Ou... Voilà. Si on explique qu'est-ce qu'on fait de l'impôt et qu'on est clair, les augmentations d'impôts sont moins un problème que si
ça,
on
même au niveau national, c'est un peu le problème. Les Français ont de plus en plus de mal à comprendre fait qu'ils payent de plus en plus d'impôts et en voyant pas forcément beaucoup de choses évoluer leur vie quotidienne ou même au-delà, parce que c'est la solidarité, hein, c'est pas forcément sa vie à soi.
Là, les impôts, d'où
au niveau local, ça concerne davantage un peu tout le monde.
Mais excuse-moi, les gens demandent qu'on ne monte pas les impôts, mais ils veulent qu'il y ait quand même, des structures, des services publics de partout. Excuse-moi.
En ce moment, c'était juste pour dire que oui, niveau local, on voit plus une chose qui se construit, c'est plus rapidement plutôt que...
On voit les effets peut-être plus facilement, c'est plus visible géographiquement parlant, on est sur le terrain. La piscine couverte, ça fait partie des projets ça, parce qu'on parle encore d'argent, c'est quelque chose qui coûte cher, on le sait. Ça a été évoqué plusieurs fois lors des précédentes élections.
La piscine couverte, ça revient à toutes les municipales depuis 30 ans, donc nous la dernière fois on ne l'avait pas mis dans notre projet, on ne le mettra toujours pas. Notamment parce que c'est un investissement important, donc ça grèverait d'autres investissements. Moi, je préfère faire une maison des associations, des pistes cyclables, qu'une piscine couverte, qui est un projet très séduisant, hein, parce que tout le monde a envie d'une piscine couverte. Mais... Donc c'est un investissement important, on sait que ça coûte 6-8 millions d'euros. Et puis, moi, je suis allé voir la piscine à Livron, j'ai regardé un peu le projet autour de Romans. Il faut un bassin de population de 50 000 habitants pour pouvoir maintenir à zéro le budget de fonctionnement. Parce que ce qui est important pour une commune, c'est de faire des investissements qui ne coûtent pas cher en fonctionnement après. Si vous faites un gymnase qu'il faut balayer 18 fois par jour, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, une piscine couverte à 10, ça voudrait dire un budget de fonctionnement énorme. Ça veut dire qu'on grève nos capacités de faire d'autres projets, quoi.
D'accord. Si vous avez des questions à poser, bien évidemment, le standard est toujours ouvert. On a déjà quelqu'un, c'est ça ? Avant que je donne le numéro, c'est formidable. Vous êtes habitués, chers auditeurs, vous avez déjà le numéro. J'en profite pour vous le redonner quand même. 0952 368 531. 0952 368 531. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour discuter avec les lycéens et M. Leuenberg, qui acceptera, je pense aussi, à répondre à vos questions si des auditeurs veulent intervenir. On a quelqu'un au bout du téléphone, Joris ?
Oui.
Allô ? Bonjour madame. Pardon, on vous entend pas très bien. Sur les statistiques et...
Ah, voilà, c'est mieux.
Vous m'entendez là ?
On vous entend mieux.
Approche pas un casque.
Voilà, je voudrais réagir sur les statistiques des embêtements des communes. Oui. Car de nombreuses communes sont sur Internet avec un taux d'endettement extrêmement élevé.
Oui.
En fait, ces statistiques, comme nombreuses statistiques, ne tiennent pas compte d'une chose qui est très importante, c'est que certains emprunts ont en face des recettes, notamment tous les emprunts qui sont inhérents à des logements communaux, qui sont couverts par des loyers. Donc il faut vraiment différencier et faire attention aux statistiques sur les endettements des communes et des collectivités, parce que quand un emprunt est couvert par une recette, il rentre quand même dans ce chiffre.
Donc votre question, c'est quoi, madame ?
Ça n'intervient pas après sur les impôts des gens.
Donc vous avez une question à poser, monsieur Lowenberg ? Ou au lycéen, je ne sais pas.
En fait, je n'ai pas connaissance du budget du DIWA, puisque je ne fais pas partie du DIWA, mais je voulais réagir sur une radio un petit peu écoutée sur ce sujet, parce que dans le cadre des élections municipales, il se dit vraiment n'importe quoi, et notamment sur ça, sur l'endettement, et c'est tout de suite le mot d'ordre des oppositions, l'endettement, attention, on va augmenter les impôts, mais il faut vraiment différencier les endettements qui sont couverts par des recettes.
D'accord, voilà. L'argent est le nerf de la guerre, donc c'est forcément un argument essentiel.
Voilà.
Pas toujours de bonne foi, d'après vous.
Malheureusement, et je m'insurge contre ça, parce que de nombreuses communes, je ne sais pas si je dis ouais, en fait partie, mais de nombreuses communes en France ont vraiment mené une politique du logement conformément à la demande de l'État. Et cette politique du logement, forcément, elle entraîne les communes à avoir recours à cet emprunt. Donc sans tenir compte qu'en face, ces emprunts sont...
D'accord, on a bien compris votre observation, madame. Peut-être que M. Lowenberg va vous répondre sur le logement, peut-être de façon plus large, et le rapport entre endettement et...
Oui, parce qu'après, des projets où, sur dit, on aurait eu de l'endettement et des recettes en face... j'en trouve pas, donc c'est l'auditrice a un exemple.
Non, mais après, je connais pas votre.
Vous n'habitez pas dit.
Je connais pas votre budget, mais c'est de façon générale la question qui a été posée.
D'accord.
Par un élève sur l'endettement.
Après, sur la politique du logement, a dit quand la mairie veut construire des logements, elle fait appel à DH et Drôme Aménagement Habitat. Qui à DH ou à d'autres organismes pour faire du logement social, HLM. Donc c'est ces organismes qui font les emprunts, qui construisent et qui touchent les loyers. Et pour la commune, c'est une opération à 0 euro.
Bon, merci pour votre réponse, monsieur Lowenberg. Merci pour votre observation, madame. Et merci de continuer à nous écouter sur 107.5. C'est agréable pour les lycéens. Au revoir, madame.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir, volontiers. Ulysse, une autre question sur un autre sujet peut-être ?
Monsieur Lowenberg, en septembre prochain, les rythmes scolaires vont changer dans toute la France, c'est dit. Que comptez-vous faire et que comptez-vous organiser au niveau local, au niveau de l'école de Die pour ces nouveaux rythmes scolaires ?
Alors c'est une vaste question, on savait que ça viendrait sur le débat des municipales. Donc ce qui a été fait pour éviter que ça fasse trop de polémiques, je pense... Il y a eu une décision au niveau de la communauté de communes de mettre l'ensemble des maires qui ont des écoles ou des enfants qui vont dans des écoles publiques, de le mettre tous ensemble, de discuter avec l'inspecteur d'académie, de comment on fait avec cette réforme. Donc on l'a retardée d'un an pour pouvoir bien préparer. Moi, on prendra le travail en cours puisque c'est déjà engagé. Ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'on puisse regarder que les intervenants aient des statuts corrects, qu'il y ait des diplômes derrière, qu'ils soient professionnels. Et puis, on essaye de regarder aussi, peut-être avec des partenariats, notamment avec le collège ou d'autres associations sur DIE, comment on fait pour ne pas avoir une flopée d'emplois très, très précaires, puisque les horaires de travail sont compliqués à coordonner, quoi. Voilà, mais l'objectif, c'est bien de mettre en place cette réforme.
Vous pensez que c'est une bonne réforme lancée par le ministre de l'Éducation nationale ?
Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais j'ai eu des enfants il y a 15 ans.
On va revenir au premier sujet, autrement.
À l'époque, ils allaient à l'école le samedi matin. Ouais. Quand le samedi matin a été enlevé, il n'y a aucun maire qui a râlé et qui a rendu à l'État l'argent pour le ménage du samedi, pour les ATSEM, pour le coût de fonctionnement que ça coûtait. Par contre, quand on le remet... Alors, c'est pas le samedi matin, c'est le mercredi. Tout le monde râle. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que l'éducation nationale s'ouvre un peu aussi. Alors, on me dit, attention, il faut être prudent et tout ça. D'accord. Mais moi, j'étais animateur d'éducation populaire. Je trouve que c'est intéressant que des gens qui font du théâtre, de la peinture, du sport, d'autres activités, puissent arriver avec un autre regard aussi, dans un temps périscolaire, pour apporter Une autre dimension dans l'éducation de l'enfant. Quoi.
Ceux qui sont réticents, essentiellement certains maires, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs un peu de tous les partis politiques, peut-être un peu plus de l'opposition, c'est la règle du jeu en général, mais c'est encore une histoire d'argent, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a une partie financée par l'État, mais ça repose aussi en partie non négligeable sur la municipalité.
Ça repose en partie sur les communes.
C'est,
mais
ces après-midi avec des intervenants extérieurs.
Voilà, comme je vous disais, quand on donne des recettes aux maires, en général, on ne les entend pas hurler, et quand on en enlève un peu, on les entend un peu plus hurler. Mais après, il faut penser avant tout à l'intérêt des enfants, quand même, dans cette réforme.
Ulysse, encore les autres ont le droit de s'exprimer.
Dans votre projet,
c'est une autre question.
J'ai lu que vous voulez mettre en place un projet de chauffage collectif vaste pour tous les bâtiments publics sur 10, projet qui paraît de grande ampleur. Donc, pourriez-vous préciser ce projet? Et seconde question, comment comptez-vous le financer?
Alors, très bonne question. Je suis délégué à la filière bois, donc je vois des projets autour, notamment Bulles-et-Baronnie, Saint-Jean-Royan, Saint-Laurent. Il y a eu 14 projets comme ça dans la Drôme, il y en a très peu qui ont abouti. C'est une façon de répondre à deux choses. Il y a l'enjeu écologique d'une part, du réchauffement climatique et de la lutte contre l'utilisation des énergies carbonées, et de faire fonctionner aussi les entreprises locales, puisqu'il y a des entreprises locales dans le domaine du bois, il y a de la forêt autour. Il y a des plans de gestion, il y a des acteurs qui s'organisent. Voilà. Après, vous avez raison de parler du coût et du financement. Moi, je me suis bien renseigné. Si on fait un réseau de chaleur, c'est pour ça que vous avez dit qu'il est inscrit dans notre projet, mais il est inscrit avec quand même quelques bémols. C'est-à-dire qu'on fait un réseau de chaleur, s'il alimente des bâtiments qui sont des gouffres énergétiques,
comme l'ancien gymnase ?
Comme l'ancien gymnase, par exemple, comme même la mairie, comme la plupart des bâtiments qu'il y a sur 10. On a 20% de subvention de l'ADEME. Si on alimente des bâtiments haute qualité environnementale, donc isolés, on a beaucoup, beaucoup plus de subventions. Alors, déjà, ça répond en partie à votre question. Ensuite, un réseau de chaleur, il y en a à Aubenas, alimente, par exemple, le lycée, le collège, la mairie, la communauté de communes, le lycée, le collège, c'est le département et la région, peut alimenter l'hôpital, c'est l'État, la communauté de communes, c'est l'intercommunalité, les communes. Donc l'objectif, c'est, je crois que ça fait partie de notre méthode de travail, on met tout le monde autour de la table et on voit qui est prêt à participer, à combien et si on y va ou pas. Mais la première étape, c'est quand même d'isoler tous les bâtiments, parce que sinon, ça ne sert à rien de changer d'énergie pour aller les cramer dans des bâtiments énergivores.
Autre chose, oui, Arthur.
Bonjour, et je reviens juste sur le projet de pistes cyclables sur la Drôme. Alors, je vois pas. Les pistes cyclables, c'est une très bonne idée. Hein. Il y en a dans toutes les grandes villes, et je sais pas s'il y en a quelques-unes à Die ou ailleurs, mais en tout cas, sur les berges de la Drôme, je pense que ce serait assez dommage de les faire juste à côté, parce que c'est quand même un lieu de détente et de loisirs. Enfin, notamment l'été.
Des élèves de la section sport nature pendant la saison et l'été des estivants.
Voilà.
J'entends plus rien.
Et je trouve que ce serait dommage de faire des pistes cyclables, du coup, de bétonner les bords de la Drôme pour, même si voilà, alors, le vélo, c'est quand même une très bonne
idée. Ouais, je vous réponds. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas un projet municipal. Le projet municipal, c'est on part du collège ou du centre-ville et on peut aller jusqu'à 3 km à la ronde d'Andy, pour aller sur les quartiers ou pas sur bord de Drôme. Le projet bord de Drôme, on dit bord de Drôme, en fait, c'est longer la Drôme. C'est sur le même type que la Via Rhôna, qui va de Lausanne au sud de la France en passant par la vallée du Rhône, qui est un site propre protégé. Et moi, la demande que j'ai faite au département, c'est que ce projet, il est super. On attendait 100 vélos par jour, il y en a 1000. On voit qu'il y a des gens qui l'utilisent régulièrement pour aller au travail. C'est pas que pour le tourisme. Moi, je leur ai demandé qu'on étudie la possibilité de faire des axes perpendiculaires au Rhône qui longent et qui remontent le long des cours d'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va passer à 5 mètres du bord de Drôme. Ça veut dire qu'on utilise les voiries existantes, qu'on essaye de trouver des itinéraires qui soient cohérents pour les vélos, c'est-à-dire pas avec des dénivelés à 10 ou 15%, parce que tout le monde doit pouvoir les utiliser, et que ça puisse servir, notamment je pense aux gens qui habitent à Pontcarre ou à Ponté-Sainte-Croix, pour venir à Die à vélo, sans être au bord d'une départementale avec des véhicules à 100 km/h.
Oui. Arthur, convaincu.
Mais c'est un projet d'ampleur départementale, hein, oui, qui n'est pas inscrit dans le budget, le projet municipal.
D'accord, bah merci.
Anne-Sophie ?
J'avais une autre question par rapport au quartier de Chanqueras. Actuellement, il y a un projet pour développer un quartier, la ville, pour développer la ville de ce côté-là. Bah, je voulais savoir ce que vous comptiez faire, si vous comptiez continuer à vouloir développer la ville de ce côté ou ce que vous en pensiez.
Oui, alors, nous, on a toujours voté pour ce projet, notamment parce qu'on sait qu'il manque de logement social à Die et qu'il y a une grosse demande, même pour de la construction, de l'accession à la propriété, de gens qui n'ont pas forcément un budget très important. On a une grosse demande aussi en logement collectif, des gens qui veulent se regrouper et construire ensemble. Alors sur ce projet, là ça va être compliqué de rentrer dans le détail, mais nous on est d'accord avec le fait qu'il faille construire du logement. Par contre sur l'aménagement d'ensemble, on pense qu'on peut quand même rediscuter ce projet où il y a beaucoup de voiries, il n'y a pas de pistes cyclables dédiées, il y a des trottoirs pour piétons et vélos, enfin, où il n'y a pas d'espace collectif, il n'y a pour l'instant pas de jeux pour enfants, par exemple, c'est tout bête, mais des jeux pour enfants, des petits terrains, des choses, moi, ça me semble important. Et puis, on a un autre questionnement, c'est que le projet, c'est d'arriver à 270 logements sur 10 ans. 270 logements, ça fait beaucoup. Et nous, on voudrait pas que ça vide le centre-ville pour aller mettre les gens à l'extérieur et qu'on se retrouve avec un centre-ville qui soit une espèce de city à la londonienne où il n'y a plus personne qui habite. Parce qu'on sait qu'on a 100 logements insalubres sur 10, qu'on a beaucoup de logements en très mauvais état. Donc on a envie plutôt de pousser une opération de réhabilitation. Alors c'est très compliqué parce que c'est des propriétaires privés. Ça n'empêche pas de construire le logement social à côté. Mais voilà, il faut quand même regarder ce qui se passe au centre-ville, équilibrer les choses, quoi.
Et du coup, la maison de santé qui voulait se faire, qui se fait là-bas, ça participe à déplacer la population aussi, non ?
Alors la maison de santé, oui, effectivement, ça participe à déplacer un peu la population. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un centre-ville qui est très petit, avec des rues serrées et peu d'espace. Donc on l'aurait bien vu en centre-ville. En même temps, c'est un projet, pour en avoir discuté avec les médecins ou les professions paramédicales qui pourraient être dedans, eux, ils ont une grande clientèle qui vient de l'extérieur des villages. Mmh. Donc, c'est aussi quand même une facilité d'accès pour la moitié de la clientèle quasiment qui vient des villages. Et après, donc, l'objectif, c'est de relier ce centre avec le centre-ville, enfin le centre de santé. Toujours pareil avec des modes de déplacement qui puisse éviter de prendre la voiture.
Dernière question peut-être d'Ulysse, parce qu'on arrive bientôt déjà. C'est vrai que ça a passé très vite au terme de cette émission.
Très Ulysse. Rapidement, pour les électeurs, qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant ?
Ah, c'est une question compliquée, là, parce que...
On va commencer par une question général... rude et on termine par une question rude. La boucle est bouclée.
Voilà, mais je pense que moi, j'ai envie de faire de la politique avec les gens et d'être vraiment à l'écoute des projets et de ne pas me contenter, parler de Chanqueras, par exemple, il y a eu une enquête publique. C'est quand même un projet qui engage la ville sur 10 ans. Il y a deux personnes qui sont venues à l'enquête publique. Alors, la majorité sortante a dit, ça veut dire que c'est un très bon projet. Donc, personne n'a eu de remarques à faire. Nous, on dit, c'est que le projet n'a pas été entendu, compris. Qu'on est souvent dans une relation où on met des experts en face de la population. Et la population n'est pas forcément experte. Il faut trouver une façon de mettre les élus et la population ensemble. Et les experts, ils servent au projet qui est défini par les élus. Et ce n'est pas eux qui définissent les projets. Moi, quand on fait une enquête publique où on met un document de 200 pages à disposition du public, je ne considère pas que ce soit de la co-élaboration, de la co-construction, quelque chose comme ça. Et un deuxième point pour finir, je pense qu'on ne peut pas construire Die aujourd'hui comme Die ou le Diwa comme un sanctuaire isolé du reste du monde et tout le temps en lutte contre la communauté de communes, contre le département, contre la région, contre l'État, contre le gouvernement, contre l'Europe... contre tout ça, et que si on veut être efficace, construire des projets, il faut le faire avec les gens, mais il faut aussi mettre autour de la table et discuter avec tous les partenaires extérieurs, que Die soit inscrit dans un réseau de villes, de communes, d'intercommunalités, qu'il n'y ait pas le fromage de Die contre le fromage de l'Ardèche qui va faire la guerre contre le fromage de... Parce qu'on en arrive là, des fois, avec... Et qu'en travaillant ensemble, c'est ce que j'ai pas assez vu dans ce mandat sortant, c'est qu'on ne travaille pas en partenariat sur la question sociale, par exemple les personnes âgées.
la mairie participe très peu au travail du CLIC, qui est animé par le département, alors qu'il y a une foison d'idées, de projets, et que ce serait mieux de travailler ensemble. On travaille pour les mêmes.
Qu'est-ce que vous retirez de cet échange de 40 minutes avec le lycée ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé aborder, que vous n'avez pas eu le temps d'aborder dans votre projet, qu'on aurait oublié ? C'est vrai que ça passe très très vite.
Ils ne m'ont pas posé la question de la place des jeunes.
Oui.
Dans un projet comme celui-là.
Effectivement, c'est paradoxal, puisqu'ils sont tous jeunes autour de la table.
La place du plan ? La place du
non,
plan.
La place des jeunes.
La place des jeunes.
Excusez-moi.
Décidément. Peut-être une ultime question. Si vous êtes élu maire de Die au mois de mars prochain, est-ce que vous conserverez votre mandat de conseiller général ou est-ce que vous consacrerez entièrement à la ville de Die ou la décision n'est peut-être pas prise encore ?
Alors, j'ai pas vraiment le choix. En fait, les prochaines élections cantonales sont, enfin, ce sera des départementales, sont en mars 2015. Mm-hmm. On peut pas démissionner de son mandat un an avant les élections, donc pendant
donc,
un
au-delà
an.
Au-delà de 2015, évidemment.
Voilà.
La question.
Non, mais au-delà de 2015, non, non. Si, si, je sais. Non, je ne me représente pas aux élections cantonales, notamment parce que je pense pas qu'on puisse cumuler deux mandats comme celui-là. Enfin, moi, j'ai pas envie.
D'accord.
Et puis, il y a un nouveau mode de. Vous savez que les cantons de Saillant, Die, La Motte-Charlancon, Luc et Châtillon-Diois sont regroupés en un seul canton. Moi, j'étais contre cette réforme et je vois pas le conseiller général. Moi, je rencontre des gens tous les jours. Je suis un élu de proximité. Je vois pas le sens que ça a d'être conseiller général dans un territoire aussi vaste. Même s'il y a peu d'habitants, ça reste quand même très vaste.
D'accord. Bah, écoutez, monsieur Lewenberg, en tout cas, on vous remercie. Les lycéennes et lycéens vous remercient d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez le premier à essuyer les plâtres. Les auditeurs peuvent retenir sur leur agenda que le 12 février, donc dans les mêmes conditions, 40 minutes, nous recevrons M. Jouve, qui se présente à la mairie sous l'étiquette écologiste, EELV, Europe Écologie Les Verts. Et le 19 février, donc je suis en train de dire une bêtise, monsieur
Lewenberg.
Corrigez-moi.
Vous lui poserez la question. Il n'y a plus le logo sur son.
D'accord,
sur
il n'y a plus le logo. Alors c'est la première question qu'on lui posera. C'est une question de sa part. On peut faire comme ça un débat interposé. D'accord, on va essayer de la noter. Notez ça, les lycéens. Donc pas officiellement EELV pour le logo. Enfin, en tout cas, vert, on va être plus large. Ça, je crois avoir compris ça. Et le 19 février, donc monsieur Berginia, maire actuel. Merci beaucoup.
Eh ben, je vous remercie pour.
Merci
à vous.
Je rappelle juste à nos auditeurs que. Ou je leur apprends, je ne sais pas si on leur a dit, Julien, en deux mots, qu'on a une page Facebook.
Alors, exactement, ouais, on avait peut-être parlé déjà en début d'année ou dans les premières émissions de CCC. Donc, on rappelle voilà, à tout le monde, tous ceux qui veulent nous suivre, en tout cas, sur les réseaux sociaux. On parlait de Facebook tout à l'heure, mais là, ça n'a que des avantages. Puisque vous pouvez d'abord découvrir notre programme des prochaines émissions et éventuellement pouvoir réagir en différé, puisque bien sûr c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pardon. Donc réagir aux émissions et puis éventuellement nous donner des idées de sujets que vous aimeriez entendre. En tout cas, à la radio, et pourquoi pas ben, même pouvoir écouter les podcasts.
Et voilà. On va essayer de mettre en podcast cette émission. Là, je m'adresse aux techniciens en chef qui sont en face de moi. Ça serait bien qu'on ait les trois émissions sur les trois candidats. Ben, je pense qu'on va faire ça dans quelques temps. C'est de l'ordre du possible,
oui,
Joris.
Très oui, bien.
C'est... Merci.
Oui,
merci c'est à possible. Toi pour ceux qui n'auront pas pu écouter M. Lewenberg aujourd'hui et les deux autres candidats à suivre. Passez une excellente après-midi sur Radio Diwa. Il est 13h02. Restez à l'écoute des programmes et nous on se retrouve pour une émission normale entre guillemets le 5 février. Ce sera de nouveau CCC, ce sera CCC numéro 14. Et oui, déjà, à très bientôt. Merci encore M. Lewenberg.
Au revoir.
Merci à vous.
C'est ça
la classe.
C'est ça la classe.
C'est ça la classe.